Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sédoudia, bonjour. Le président Joe Biden a reçu hier à Washington son homologue kényan Uhuru Kenyatta, premier chef d'État africain à être invité à la Maison-Blanche par le président démocrate qui en a profité pour annoncer de nouveaux dons de vaccins. Les États-Unis vont ainsi envoyer 17 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson à l'Union africaine, en plus des 50 millions de doses déjà envoyées à l'organisation, a fait savoir M. Biden dans le bureau Oval avant son entretien avec son hôte kényan. Washington a promis de faire don au total de plus de 1,1 milliard de doses de vaccins contre le COVID-19 aux pays les plus pauvres. En Guinée-Bissau, l'état-major des armées a annoncé ce jeudi avoir identifié des militaires qui préparaient un coup d'État pour renverser l'ordre constitutionnel dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Selon le général Biagé Nathan, chef d'état-major général des armées, ce sont les soldats ayant reçu de l'argent qui ont dénoncé les auteurs, et je cite, « de ces actes ignobles ». Fin de citation. Cette annonce intervient le jour même où le président Oumarou Sissoko Ambalo a quitté Bissau pour une visite de travail de 48 heures. Au Nigeria, le chef d'état-major, le général Lucky Irabor, a annoncé hier la mort d'Abo Moussab al-Barnawi, le chef du groupe djihadiste nigérien ISWAP, affilié au groupe État islamique. Le général Irabor n'a pas précisé les circonstances du décès d'al-Barnawi, déjà donné pour mort par les autorités nigériennes par le passé. Son décès n'a pas été confirmé par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, né d'une scission avec Boko Haram, dont le chef, Aboubakar Shekau, est lui mort dans des affrontements entre les deux groupes rivaux. En Algérie, le ministère de la Défense a indiqué hier qu'un garde-frontière algérien a été tué et deux autres blessés mercredi soir dans un attentat à la bombe artisanale près de la frontière avec le Maroc. Selon le ministère, leur patrouille effectuait une mission de reconnaissance dans le cadre d'une opération militaire pour la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée. Au Rwanda, 6 personnes, dont l'animateur d'une chaîne YouTube et 3 membres d'un parti d'opposition, ont été arrêtés mercredi, accusés de répandre des rumeurs visant à saper le gouvernement, a-t-on appris hier auprès de la police. Parmi les personnes arrêtées figurent Toneste Sengimana, de la chaîne YouTube Umubavu TV, qui totalise plus de 16 millions de vues et sur laquelle des Rwandais ont été appelés à dénoncer les violations des droits humains prétendument menées par le gouvernement. Dans un communiqué mercredi soir, le bureau d'enquête rwandais avait exhorté les Rwandais à se méfier de certains commentateurs de réseaux sociaux qui cherchent à saper la sécurité nationale et le gouvernement, et rappeler que toute personne arrêtée sera poursuivie. En Éthiopie, le nombre d'enfants admis pour des cas de malnutrition aiguë sévère dans la région septentrionale du Tigré, ravagée par la guerre depuis 11 mois, a doublé cette année par rapport à 2020, selon l'ONU. Selon elle, le Tigré est soumis à un bloc de facto de l'aide humanitaire. Armée éthiopienne et rebelles pro-TPLF s'accusent mutuellement d'entraver l'acheminement de l'aide et d'affamer la population. Le nombre réel des contaminations au COVID-19 en Afrique est 7 fois plus élevé que les chiffres officiels de plus de 8 millions qui ne prennent pas en compte des sujets asymptomatiques non détectés faute de tests, a estimé hier l'OMS dans un communiqué. La justice américaine a inculpé jeudi un ancien pilote d'ailé de Boeing accusé d'avoir induit en erreur le régulateur de l'aviation aux États-Unis au cours du processus de certification du 737 MAX dont 2 appareils se sont écrasés. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, 13 personnes ont été tuées, plusieurs blessées, une cinquantaine de maisons incendiées en trois jours de violence entre deux communautés qui se disputent des terres dans le nord-ouest du pays. Des détails avec Nani Talani.
Bilan provisoire des affrontements depuis lundi jusqu'à mercredi entre les membres des groupements Lingotebe et Kungu est de 13 personnes tuées à l'arme blanche, plusieurs blessés et une cinquantaine de maisons brûlées, d'après Jean-Pierre Elongo, administrateur du territoire de Kungu dans la province du sud Ubangi, dans le nord-ouest de la RDC. Selon lui, ces violences sont causées par des disputes sur les limites entre les territoires des Lingotebe et des Kungu qui remontent à 1982. Ces deux groupements se disputent les espaces de ramassage de chenilles. Mais une solution définitive n'a jamais été trouvée, a-t-il ajouté. Le territoire de Kungu est situé à une centaine de kilomètres du chef-lieu de la province du sud Ubangi, une région qui, en 2010, a été secouée par un conflit meurtrier entre les communautés Muzaya et Enyele. Ces derniers se disputaient le contrôle des étangs poissonneux dont regorge cette région forestière.
Au Cameroun, un gendarme a tué hier jeudi une écolière de 5 ans avant d'être lynchée par les populations en colère dans la partie anglophone qui est déjà en proie à un sanglant conflit séparatiste. Les précisions de John Linden.
Le gendarme qui avait tiré sur le véhicule dans lequel se trouvait la fillette qui allait à l'école a été lynché par la foule. La situation reste tendue à Boya où des centaines de personnes ont manifesté leur colère. Nous appelons la population au calme. C'est un incident triste et malheureux, a déclaré le gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okaliabilaï. Interpellé à un barrage de la gendarmerie, le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer avant d'être rattrapé par un binôme de gendarmes, selon un communiqué publié par le ministère de la Défense, qui dit regretter profondément ce malheureux incident. L'enquête permettra de préciser les contours et les responsabilités, soutiennent les autorités. Depuis 2017, les deux régions anglophones du Cameroun sont le théâtre d'un conflit qui a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile, selon les Nations Unies.
Au Liban, de violents combats de rue ont opposé hier des hommes armés à Beyrouth après des tirs lors d'une manifestation organisée par les mouvements chiites, Hezbollah et Hamal. Ces violences qui ont fait 6 morts viennent raviver le spectre de la guerre civile de 1975. La France a immédiatement appelé à l'apaisement et les États-Unis à la désescalade. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les affrontements se sont déroulés près du palais de justice où se sont massés des partisans des deux mouvements chiites pour exiger le remplacement du juge Tarek Bita, chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 qui avait fait plus de 200 morts. Malgré les fortes tensions, le juge Bita persiste à vouloir interroger certains hauts responsables, dont deux anciens ministres du mouvement Hamal. Après plusieurs heures d'échanges de tirs nourris, le calme est revenu dans le secteur de Tayouné où l'armée s'est déployée. Le ministre de l'Intérieur, Bassam Maolawi, a affirmé que des francs-tireurs ont tiré sur les manifestants, puis un grand nombre d'hommes armés, certains masqués et beaucoup portant des brassards d'Hamal et du Hezbollah, ont accouru sur les lieux. Ces deux mouvements chiites ont accusé la formation chrétienne des forces libanaises d'avoir posté des snipers, mais celle-ci a démenti. Le président Michel Aoun, un allié chrétien du Hezbollah, a jugé inacceptable de revenir au langage des armes. Ces violences viennent s'ajouter aux multiples crises politiques, économiques et sociales dans lesquelles le Liban est plongé depuis plus de 2 ans.
La Minute Éco, Nani Talani.
Les gouvernements mauritanien et togolais veulent entamer une coopération bilatérale dans les domaines portuaires et de la pêche pour bien profiter des grands atouts dont disposent les deux pays. Le Togo dispose du seul port en eau profonde de la sous-région. De son côté, la Mauritanie a une plateforme portuaire qui offre une position géographique privilégiée pour les navires au départ de l'Europe. Le Burkina Faso a adopté la stratégie de développement durable de la filière karité pour 2022-2026. Elle va coûter environ 60 milliards de francs CFA et va inclure la gestion durable de l'arbre à karité, l'accès aux zones de production, le renforcement de la compétitivité, la commercialisation et une possible transformation du karité. Cette filière créatrice d'emplois et source de revenus a généré 66 millions de dollars en 2019 grâce à une production de 152 000 tonnes de karité exportées surtout vers le Ghana, le Danemark, le Togo et l'Inde selon Ecofin. Pour terminer, les autorités camerounaises ont lancé la construction de la nouvelle ligne de production de Siminkam pour produire 500 000 tonnes de ciment et environ 1000 tonnes de clinker à Figil dans le nord du Cameroun. Selon Ecofin, l'infrastructure va coûter 50 milliards de francs CFA et sera construite en 2 ans. Elle va créer près d'un millier d'emplois. Siminkam compte 3 actionnaires, Maroc-Afrique, le Cameroun et les employés.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La suite de cette affaire au Kenya, la police est à la recherche du mari d'Agnès Tirop, prometteuse athlète de 25 ans dont le meurtre révélé a suscité l'émotion dans le pays et dans le monde de l'athlétisme. Tom Makori, commandant de police, a affirmé qu'Emmanuel Rotich, mari d'Agnès Tirop, est le principal suspect. Il a passé un appel aux parents de Tirop pour leur dire qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc, nous pensons qu'il sait ce qui s'est passé, a-t-il expliqué. La double médaille mondiale du 10 000 mètres et quatrième des derniers Jeux olympiques de Tokyo sur 5 000 mètres a été retrouvée morte mercredi, poignardée chez elle à Iten, dans l'ouest du Kenya, où s'entraînent de nombreux coureurs de fond et demi-fond. Football, le jeune milieu de terrain espagnol Pedri a prolongé son contrat avec le FC Barcelone de 4 saisons jusqu'en juillet 2026 avec une clause libératoire d'€1 milliard, annonce le club dans un communiqué. Pedro González, dit Pedri, 18 ans, s'est révélé l'an passé avec le Barça. Il a aussi fait ses débuts avec la sélection espagnole et participé à la fois à l'Euro et aux Jeux Olympiques. Le grand espoir qui figure parmi les 30 finalistes pour le Ballon d'Or signera son contrat ce vendredi. Basketball, avec cette affaire qui se poursuit ici aux États-Unis, le meneur des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, estime que chacun a le droit de faire ce qui lui semble bon. Écarté des parquets par son club à moins de se faire vacciner contre le COVID-19, Irving soutient que personne ne devrait être forcé de faire quoi que ce soit avec son corps. Le basketteur de 29 ans a été interdit mardi de s'entraîner ou de jouer par les Brooklyn Nets, à moins de se résigner à recevoir ses injections. Les nouveaux protocoles de sécurité de la ville de New York empêchent les adultes non vaccinés de prendre part aux entraînements ou aux matchs. Boxe, l'Américain Deontay Wilder a reconnu sa défaite contre Tyson Fury et félicité le Britannique qui a conservé samedi à Las Vegas sa ceinture WBC des poids lourds dans un message publié sur Instagram. « Je voudrais féliciter Fury pour sa victoire et le remercier pour ces grands moments historiques qui resteront à jamais », a commenté Wilder, défait pour la 2e fois d'affilée au terme d'un affrontement dantesque. C'est la première fois que Wilder reconnaît sa défaite face à Fury. 20 mois après un premier combat non digéré, l'Américain avait alors accusé le Britannique d'avoir lesté ses gants. Après la rencontre de samedi, Wilder a d'abord refusé d'admettre la supériorité de Fury, déclarant qu'il n'a aucun respect pour le poids lourd britannique. Il semble désormais avoir accepté le résultat et a juré de revenir plus fort sur le ring.
Merci Yakuba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Nigeria semble se diriger vers le vote électronique. Sous la pression de la société civile et des Nigérians, le Sénat a finalement cédé et a donné à la Commission électorale nationale indépendante le pouvoir de déterminer le mode de transmission électronique des résultats. C'était un sujet tabou ces derniers mois pour la majorité des parlementaires qui ne voulaient pas entendre parler de la transmission électronique des résultats des élections. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Tous ces rêves Le sujet fait l'objet d'un débat âpre dans tout le pays. Depuis juillet dernier, lorsque la loi électorale a été modifiée, les députés et sénateurs refusant d'autoriser la transmission électronique des résultats. La société civile et de nombreux Nigérians ont critiqué les représentants au Parlement fédéral, les accusant d'encourager les fraudes électorales. Mardi, les sénateurs ont décidé de revenir sur leur décision en acceptant la transmission électronique des résultats des élections au Nigeria. Le sénateur Ike Ikweremadu a soutenu le projet de loi.
Les opérations de vote durant une élection et la transmission des résultats sous cette nouvelle loi doivent être en conformité avec la procédure mise en place par la Commission nationale électorale.
Les experts affirment que la transmission électronique des résultats rendrait les élections plus transparentes et plus crédibles. Cynthia Mbamalou est la directrice des programmes à IAGA Africa, une ONG locale engagée dans la promotion de la gouvernance démocratique, des droits de l'homme et de l'engagement civique.
Cette loi adoptée va promouvoir la transparence et la crédibilité du processus électoral, s'agissant surtout de la gestion des résultats des élections. Depuis le retour à la démocratie en 1999, le taux de participation aux élections au Nigeria baisse de plus en plus, parce que la majorité des électeurs ne font plus confiance au système électoral.
Pour la directrice du Centre pour la transparence, Mfet Mwadidji, c'est la meilleure voie à suivre pour changer le système électoral du pays.
À mon avis, on ne devrait pas perdre d'énergie et de ressources pour tenter de convaincre les représentants du peuple que c'est la voie à suivre pour notre processus électoral. C'est donc une bonne nouvelle. Je les félicite pour ce revirement à 360 degrés et d'écouter la voix des populations qu'ils représentent.
La Commission électorale nationale indépendante est désormais habilitée à déterminer le meilleur mode de transmission électronique des résultats électoraux après la promulgation de l'amendement par le président Muhammadu Buhari. Cependant, la CENI pourrait faire face à un manque d'électricité et à une faible couverture du réseau d'Internet dans certaines parties du pays. Le commissaire à l'information de la CENI reconnaît qu'il y a encore des problèmes à résoudre pour rendre le processus plus transparent. Festus Okoyi.
Je pense que c'est un grand pas, mais il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des problèmes essentiels que la Commission doit prendre en considération. Premièrement, notre système de compilation des résultats est toujours manuel et ce système figure dans l'article 62 de la loi électorale.
Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
La chaîne d'approvisionnement mondiale, durement affectée par la forte demande en produits de consommation, a deux mois des fêtes de fin d'année. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé une série de mesures pour désengorger les ports américains où des bateaux remplis de conteneurs en provenance essentiellement de Chine n'arrivent pas à décharger leurs marchandises. Comment cette tension sur la chaîne d'approvisionnement mondial affecte-t-elle l'Afrique? Abdourahman Dia a posé la question à Dieudonné Essomba, économiste à Yaoundé.
Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées largement par la COVID et les mesures qui ont été prises consécutivement à la COVID. Ces mesures de confinement, de limitation, de mouvement ne pouvaient avoir que un impact très négatif sur la fluidité des chaînes d'approvisionnement.
Et maintenant que l'économie mondiale est, disons, en plein essor, la reprise est effective, comment est-ce que tout cela peut affecter l'Afrique?
De toute manière, la COVID était un accident. Et après un accident, il y a ce qu'on appelle un processus de cicatrisation. Autrement dit, le système a tendance à retrouver ses anciens équilibres. Donc, il faudrait s'attendre à ce que, grosso modo, avec le temps qui passe, que la situation se normalise. L'interruption des chaînes d'approvisionnement a eu un impact sur les systèmes productifs et sur les producteurs qui ont dû limiter leurs activités. À partir du moment où la chaîne se reconstitue, c'est-à-dire que la demande est toujours plus forte que l'offre, parce que la demande est relativement rigide, alors que l'offre est très dépendante des circonstances de production. Donc, progressivement, cette augmentation de prix est normale.
Mais la hausse des prix de l'énergie, notamment du pétrole, ne va pas arranger les choses, n'est-ce pas?
Oui, mais ça participe de la vie économique du monde. Il y a toujours ce mouvement de conjoncture, des grands produits de référence mondiaux. Donc, il est évident que la hausse des produits énergétiques va influencer. Quelquefois positivement, mais généralement négativement. Les producteurs d'énergie, les pays qui produisent beaucoup d'énergie, de pétrole, s'en sortiront mieux par rapport à d'autres qui sont essentiellement dépendants.
Est-ce qu'il y a pour l'Afrique une leçon à tirer de tout cela?
La principale leçon, c'est de diversifier son système productif pour être moins vulnérable aux chocs mondiaux. Je crois que ça, on le sait depuis 1960, les années de l'indépendance. La question étant que pourquoi, malgré ces évidences, les pays d'Afrique n'ont jamais réussi à réaliser cet objectif de diversification de leur économie qui va les rendre plus résilientes vis-à-vis des chocs extérieurs.
L'économiste Dieudonné Essomba, joint à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le président Joe Biden a donc annoncé ce mercredi un plan visant à éliminer les retards de porte-conteneurs au large des côtes de la Californie du Sud en lançant des opérations 24 heures sur 24 dans le port de Los Angeles. Les détaillants et fabricants américains subissent de graves pénuries. Reportage de Mike O'Sullivan sur les problèmes qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Les navires attendent depuis des semaines au large des côtes. La demande américaine de marchandises importées d'Asie est montée en flèche alors que la nation lutte pour sortir de la pandémie. Ginny Seroka est le directeur exécutif du port de Los Angeles.
Les usines asiatiques affichent des niveaux de commandes records, mais restent en deçà des besoins de nos importateurs américains. Dans notre industrie, nous avons augmenté de 30% la capacité des navires dans le commerce transpacifique et nous laissons toujours du fret derrière nous.
La Chine est aux prises avec des pannes de courant et les usines chinoises tentent de répondre à la demande, ce qui crée un goulot d'étranglement dans le Pacifique. Près de 30 porte-conteneurs ont été amarrés mardi au large de la Californie du Sud. Le double de ce nombre attend, ancré ou à la dérive au large. C'est un problème pour Golden Groove Trading, une entreprise californienne qui vend des vêtements et des nouveautés en provenance d'Asie. Les frais de livraison ont grimpé en flèche, les consommateurs achetant des produits pour les fêtes de fin d'année. Nyung Schulz est la fondatrice et PDG de Golden Groove Trading.
Si nous expédions un conteneur de 12 mètres de Shanghai à Long Beach, le coût était de 2 500 $. Et aujourd'hui, c'est 16 000 $, 17 000 $, 18 000 $ pour le même conteneur.
Le déchargement et le transit prennent désormais des semaines au lieu de jours dans les ports de Los Angeles et Long Beach, des plaques tournantes cruciales pour l'économie américaine. Stephen Chung est le président du World Trade Center de Los Angeles.
Ces deux ports contrôlent plus de 40% de toutes les marchandises entrant par mer aux États-Unis.
Les entrepôts sont pleins, les voies ferrées sont obstruées et il n'y a pas assez de chauffeurs de camions à cause des perturbations liées au COVID. Et le problème est national. Ginny Seroka, directeur exécutif du port de Los Angeles.
Les projecteurs ont été braqués sur les ports du sud de la Californie parce que nous sommes la plus grande porte d'entrée, mais Seattle, Tacoma, Oakland et Savannah voient également beaucoup de marchandises et de navires attendre d'entrer et de sortir de leur port.
Le président Joe Biden lutte avec le Congrès au sujet du financement des infrastructures, notamment pour la modernisation des installations portuaires. Il dit que Walmart fait partie des détaillants qui ont accepté de transporter des marchandises en dehors des heures de pointe. De nombreux ports internationaux sont actifs 24 heures sur 24. Selon les analystes, une meilleure coordination tout au long de la chaîne d'approvisionnement va accélérer le flux de marchandises à travers la Californie. Le gouvernement et les entreprises doivent coopérer sur un plan, explique un expert de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Christopher Tang est professeur de commerce et de gestion à l'Université de Los Angeles.
Nous devons répondre à la question suivante. Allons-nous dépendre des importations à l'avenir, pendant combien de temps, le volume, de sorte que nous ayons une meilleure compréhension, ou allons-nous relocaliser une partie de la chaîne d'approvisionnement vers les États-Unis ou se connecter avec le Mexique ou le Canada? Ce sera autre chose. Donc, une fois que nous comprenons cela, nous pouvons développer la meilleure infrastructure pour soutenir le plan.
Christopher Tang dit que travailler sur les retards au large de la côte est la première étape. La deuxième étape serait de reconstruire l'infrastructure pour répondre aux besoins futurs de l'économie américaine.
Les travailleurs immigrés de la maison de retraite Goodwin House dans le nord de la Virginie sont originaires de 68 pays. Lorsque les retraités résidents ont appris que les frais de $725 pour demander la citoyenneté étaient dissuasifs pour de nombreux employés, ils ont décidé à leur tour d'aider ces immigrés qui les aident au quotidien. Reportage de Laurel Bauman de la VOA, récit de Nua Kupumbu Villa.
Qui était le deuxième président des États-Unis?
John Adams.
De pareilles questions pourraient dérouter plus d'un Américain. D'où la décision des résidents de la maison d'aider les employés immigrés à se préparer aux tests pour acquérir la citoyenneté américaine. Ce membre du personnel appelle son tuteur « mon père ».
Comment appelle-t-on les 10 premiers amendements à la Constitution?
The Bill of Rights.
La Déclaration des droits.
Les personnes vivant à la maison de retraite Goodwin House font plus que donner des cours particuliers aux travailleurs immigrés. Lorsque les résidents ont appris qu'il fallait débourser $725 pour la demande de citoyenneté, ils ont trouvé ce coût prohibitif. Alors, ils ont décidé de collecter des fonds pour aider ces immigrés qui leur rendent tant de services. Rita Sibenaler, résidente de Goodwin House.
Citizenship for the people who have met all the requirements.
La citoyenneté pour les personnes ayant satisfait à toutes les exigences ne devrait pas être une proposition si coûteuse.
En 2018, elle a lancé le programme par lequel les résidents paient les frais de demande de citoyenneté en faveur des employés migrants. Rita Sibenaler, résidente de Goodwin House.
So we put out the word. And through a combination of resident donations and staff.
Alors nous avons fait passer le mot et grâce à une combinaison de dons de résidents et du personnel, nous avons eu environ $40,000 en 2 semaines. Il nous a fallu un peu de temps pour convaincre le personnel que c'était réel et qu'il devait l'envisager. Mais après que les premières personnes ont introduit leur demande, puis étudié le test et obtenu leur citoyenneté, ce fut comme une traînée de poudre.
It was just like wildfire.
Maribel Carancera, originaire des Philippines, est la directrice des services de restauration de la maison de retraite. Elle a bénéficié de la générosité des résidents qui ont payé pour qu'elle puisse devenir citoyenne américaine.
Je viens travailler non seulement pour l'argent. Je me donne à 100% pour eux avec tout mon amour. Je traite chacun d'entre eux comme un membre de ma famille. Oui.
Rob Liebreich, président de la Goodwin House, précise que les employés viennent de 68 pays et que les soins aux personnes âgées dépendent de plus en plus des travailleurs immigrés.
La population de personnes âgées de plus de 75 ans va doubler au cours des 20 prochaines années. Et en même temps, nous avons les taux de natalité les plus bas que nous ayons vus dans notre pays. Et donc, nous avons vraiment besoin de trouver des gens qui peuvent venir et fournir des soins pratiques, du soutien, etc. Et c'est là que la population immigrée est essentielle.
Ngoc Nguyen, originaire du Vietnam, a été régulièrement interrogée par les résidents alors qu'elle cherchait à obtenir la citoyenneté américaine.
Ils cherchaient plus d'informations pour m'aider à mieux comprendre l'histoire américaine et comment devenir citoyen, non seulement pour réussir le test, mais aussi comment être un bon citoyen.
90 membres du personnel immigré de Goodwin House se sont engagés dans le processus d'octroi de la citoyenneté, nouant du coup des amitiés avec leurs enseignants plus âgés.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Georges Léonard Sagno à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.